I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous, un petit mot avant de lancer l'épisode pour vous dire que la qualité du son de mon ami co-animateur, dont vous découvrirez le nom dans un instant, n'est pas idéale. Je suis désolé, malheureusement son micro était pas de super qualité et on a un petit peu corrigé ça en milieu d'épisode, mais il a quand même des petites coupures de temps en temps, donc désolé, ça s'arrange, mais pas 100%, mais c'est mieux au milieu de l'épisode. J'espère que vous m'excuserez cette petite entorse à la qualité habituelle des épisodes et que vous resterez avec nous. La prochaine fois, on fera mieux, c'est promis. Enfin, l'épisode, je pense, est quand même intéressant, donc j'espère qu'il vous apportera quelque chose. Je vous fais des bises et je lance l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo. On vous parle de consoles, de PC, de mobile, de tout ce qui se passe dans l'industrie. On vous parle aussi des jeux qu'on a testés ces temps-ci avec une bonne dose d'analyse et de bonne humeur. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir un compagnon de longue date que les poditeurs de longue date reconnaîtront, à savoir Daniel Charby. Comment ça va, Dany?
Eh ben écoute, ça va super bien, il a l'air super ce podcast, dis-moi, ça a l'air fun.
Dany, pour ceux qui ne savent pas, est mon premier compagnon de podcast à l'époque de Azeroth.fr il y a 12 ans maintenant, même plus.
Déjà ?
Oui, voilà. Oui, tu te rends compte, on était jeunes et beau, on avait tous nos cheveux à l'époque. C'était il y a bien longtemps tout ça. T'es en forme ?
Eh ben écoute, super, toujours ravi de faire... un petit podcast avec toi, ça faisait bien longtemps, donc il était
c'est
temps.
Vrai que ça faisait un petit moment. On rappelle à ceux qui ne le savent pas que tu travailles pour Dell aujourd'hui et que donc tout ce que tu dis sur les PC est teinté de ta profession de marketeur professionnel, n'est-ce pas ?
Voilà, mais je suis totalement objectif. Hein. Les PC de Dell sont de très très loin les meilleurs, les plus beaux, les plus sympas.
Tu me disais...
Jetez vos consoles et autres appareils.
Oui, bah, à part la console Nintendo peut-être, mais d'ailleurs je dis ça parce qu'on va parler un petit peu de Nintendo en première partie d'émission, mais je dis ça, mais t'as aussi travaillé pour Nintendo, donc c'est il y a très longtemps quand même.
c'est il y a très longtemps et des fois je me dis, qu'est-ce que ma vie, de quelle manière ma vie aurait-elle évolué si j'étais resté chez Nintendo, qui est soit dit en passant une super boîte où franchement on peut travailler et avoir beaucoup de plaisir en parallèle. Parce que franchement, les produits, les univers, les personnages, les jeux sont...
Et pourquoi t'as décidé de partir, en fait ? On dirait un geste complètement fou, comme quelqu'un qui travaillerait, par exemple, chez Blizzard et qui déciderait de partir. Je comprends pas.
Ah ouais, mais je pense que tout le monde me soutiendra là-dedans. On m'avait mité en Allemagne. Hein. Je sais pas si tu te souviens. Toi, t'étais peut-être encore...
Oui, je me souviens. Oui.
Mais voilà, j'étais en Allemagne. J'y ai passé un an et demi à Francfort. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ouais, bon.
Ok, c'est Nintendo, mais quand même, les bras de ours, ça suffit.
Mais quand même, voilà. Blizzard, par exemple, serait super, mais je sais pas, au Turkménistan, par exemple, je pense que je suis très Blizzard demain.
Écoute, le jour où Turkmenbashir achète Blizzard, on pourra en reparler. Mais enfin, c'est quand même pas l'Allemagne, c'est quand même pas le Turkménistan, faut pas exagérer.
Non, bien sûr.
Ils ont pas de statut à la gloire de leur.
Il y avait une raison sur laquelle tout le monde s'accordera pour me dire que effectivement, j'ai fait le bon choix. Tu manquais beaucoup trop à tout.
voilà, c'est ça qu'il fallait dire. Bon, vous l'aurez compris, on se connaît depuis longtemps et on s'aime beaucoup. Donc, merci de te joindre à moi pour cet épisode du Rendez-vous Jeu. On va commencer en parlant de Nintendo, justement, comme je le disais, puisqu'ils ont pris une décision qui est sans doute une sage décision qu'ils auraient dû prendre il y a longtemps, diraient certains, à savoir que ils ont annulé leur programme qui s'appelait le Nintendo Creators Programme, qui était un moyen de récupérer une partie des revenus publicitaires des créateurs de contenu qui faisaient du contenu à partir de Nintendo. Et quand on dit créateurs de contenu, on parle bien sûr de YouTube et Twitch. C'est-à-dire que là où toutes les sociétés du monde laissent les créateurs de contenu, enfin toutes les sociétés de jeux vidéo du monde laissent les créateurs de contenu streamer, faire des vidéos sur leurs jeux, Nintendo avait dit « Oulala, attendez une seconde, c'est quand même pas normal ce qui se passe ici, vous faites de l'argent avec nos propriétés intellectuelles ». Il nous faut une partie de cet argent. Donc, si vous voulez utiliser nos jeux dans ce contexte pour streamer, eh bien, vous devez faire partie de notre programme de créateurs et nous donner, je crois que c'était 40% des revenus qui revenaient à Nintendo, ce qui était assez surprenant ou assez important en tout cas. Je crois qu'on peut... Enfin, la question de est-ce que légalement... Nintendo a le droit de bloquer ses contenus ou de contrôler ses contenus. Légalement, la question n'est pas tranchée. Il y a des arguments pour lesquels on peut dire qui vont dans le sens de oui, ils sont propriétaires du contenu et les streamers, les vidéos, les YouTubers utilisent ce contenu et donc ils sont redevables à Nintendo. Et il y a évidemment des arguments pour dire non, c'est de l'utilisation acceptable du fair use. De ce contenu, et il est suffisamment modifié pour que ça soit quelque chose de nouveau. Bon, la question n'a jamais été tranchée, mais Nintendo a le droit, en théorie, de faire ce genre de choses. Ce qui est sûr, c'est qu'ils étaient les seuls à le faire. Est-ce que ça te surprend qu'ils aient, d'une part, bon, qu'ils aient mis en place ce système à l'époque, mais surtout qu'ils aient lâché l'affaire maintenant c'était un petit peu inattendu, je pense. Qu'est-ce que t'en penses?
Je pense surtout que c'est une bonne chose. Hein. Ça, à l'époque, à mon avis, ils ont dû faire ça pour changer un peu la façon dont le marché fonctionnait. Comme personne d'autre a suivi, finalement, c'est pas forcément une bonne chose. Et je pense que pour la concurrence, c'est quand même un super vecteur de marketing d'avoir gros YouTubers ou Twitchers qui passent leur journée à jouer sur un de leurs jeux en disant voilà, bah, c'est pour ça qu'il faut jouer sur PS4 ou sur Xbox One ou ce que tu veux, et je pense que c'est un gros manque en fait pour Nintendo, et surtout avec la sortie de Super Smash Bros dans quelques jours, où à mon avis c'est le bon moment pour revenir sur cette décision.
Oui, je crois que la décision est certainement motivée par plusieurs choses. D'une part, je pense que ça leur rapportait pas énormément d'argent. Quand à côté de ça, ils vendent des millions de Switch par jour, presque. C'est sûr que l'argent que leur apportait ce programme devait être assez... c'était des cacahuètes à côté de ça. Et puis d'autre part, c'est le moment, effectivement, pour pousser Smash Bros, ils vont pas s'emmerder à demander à chaque personne qui veut streamer le jeu de s'enregistrer avec le programme et puis les pousser peut-être à faire d'autres choses. Parce que déjà que la vie de YouTuber ou de streamer, c'est pas facile, il faut bosser beaucoup, voire trop. Et si en plus de ça, il faut donner une bonne partie de l'argent à Nintendo, ça peut faire réfléchir
certains. C'est pas motivant du tout, hein. C'est pas motivant du tout, tu vas aller voir ailleurs. Si c'est ton gagne-pain principal, je pense que, bon, voilà, hein.
Ouais, je suis assez d'accord. Je pense aussi que ce que tu évoquais, tu disais ils espéraient changer la pratique de l'industrie, peut-être. Je me demande c'était pas simplement Nintendo qui fait les trucs comme Nintendo et c'est tout, ils s'en foutent de ce que font les autres. Mais ce qui est sûr, c'est que maintenant, plus personne ne va, a priori, plus personne ne va penser à cette idée de faire monétiser ou de récupérer de l'argent des gens qui streament. Le statu quo va être, oui, tout le monde a le droit de streamer, donc le droit finalement en pratique va être, oui, on a le droit de streamer. Et la question de qui est propriétaire du contenu créé ne va plus vraiment se poser parce qu'en pratique, personne ne bloque rien aujourd'hui. C'était les derniers à essayer ce genre de choses. Et bon, si maintenant, eux aussi admettent que ce n'est pas la bonne manière de faire les choses, bah ça y est, il n'y a plus personne pour le faire. Donc, c'est sans doute une bonne chose pour les streamers et les youtubeurs. Ça règle un peu la question, on va dire. D'ailleurs, à propos de Smash Bros, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a un leak énorme qui a eu lieu cette semaine avec des copies du jeu qui ont été récupérées quelque part, soit chez les testeurs de la presse, soit visiblement il y avait une boutique au Mexique qui a réussi à en avoir 2 semaines avant la sortie. Et ils ont extrait la ROM et ils l'ont mise en ligne sur Internet. Et donc, il y a plein de pirates, de méchants pirates qui ont jailbreaké leur console, qui ont pu l'installer sur leur console et qui jouent et qui streament Smash Bros. Alors, Nintendo, là, pour le coup, a fait supprimer les vidéos et les contenus, mais c'est un énorme leak pour la Switch. Toi, c'est un jeu qui t'intéresse, Smash Bros, ou tu es comme moi, tu fais partie des gens qui l'ont raté?
Je travaille chez Nintendo, en fait, pour le premier et le deuxième sorti. Je n'ai jamais... Enfin, je n'y arrive pas, je comprends pas d'où vient l'engouement pour ce jeu. Alors, il est sympa, t'as un roster de malades, il y a 50 000 personnages, c'est fun, t'as plein de trucs à faire et tout. Mais je sais pas, je dois être old school, je préfère les jeux de combat traditionnels.
Ouais. Mais vrai.
Auquel toi et moi on jouait quand on était jeune.
Quand on était petit.
Voilà.
C'est vrai, ouais. Bah, là, ça sera l'occasion de vraiment de l'essayer pour moi, en tout cas. Mais je suis un petit peu dans la même.
J'y avais joué sur Wii U déjà. Je pense que les différences seront pas forcément genre. Enfin, pour un néophyte tel que moi, elles seront pas énormes. Je lui laisserai une chance, je verrai, mais déjà sur Wii U, il m'avait pas rendu fou de désir en me disant, ah, oh, c'est génial, il faut que j'en fasse une, tu vois. Au 3 parties, moi, j'étais genre, bon, on va peut-être repasser sur, le Mario qu'il y avait sur Wii U, qui était fantastique, donc je me souviens plus du nom.
Oui, Super Mario 3D World, effectivement.
Voilà.
Bah en tout cas, les gens comme toi et moi sont rares, je pense, parce que Smash Bros. Est déjà, l'un des jeux les plus précommandés, de la console, c'est sûr, et puis de la série Smash Bros. Donc, il y a plein de gens qui l'attendent avec impatience. Et bon, on n'est qu'à une semaine de la sortie, donc ça va être la fête chez Nintendo la semaine prochaine. D'autant plus qu'il y aura peut-être d'autres choses qui vont arriver. On va en parler un petit peu plus tard dans la partie rumeurs sur les Game Awards. Mais donc, voilà, bonne nouvelle pour les fans de Nintendo. Et je pense effectivement que c'est marrant parce que, comment dire ? Je veux pas dire du mal des fans de Nintendo, loin de moi cette idée, parce que moi-même j'adore Nintendo, mais ce programme de créateurs, la semaine dernière je parlais de Smash Bros et de Street Fighter, et de Street Fighter V, ça a provoqué des commentaires dans les notes de l'émission, et je disais en gros, les fans de Nintendo sont quand même assez indulgents avec Nintendo, là où, la communauté des gamers est assez indulgente avec Nintendo, là où ils sont moins indulgents peut-être avec d'autres sociétés. Et ça, c'est un exemple, par exemple. Ce truc de Nintendo, ça a fait un petit peu grincer des dents ce programme de créateurs à l'époque où ils l'ont implémenté. Mais bon, depuis, tout le monde a oublié, tout le monde s'en fout. Si EA avait fait un truc comme ça, on n'en aurait jamais entendu.
Les pourritures capitalistes, les salauds qui pensent qu'à l'argent. N'importe quelle autre boîte, hein, t'aurais dit Microsoft, c'était pareil. Je pense que ça aurait été le même commentaire. Hein, capitalistes qui pensent qu'au pognon.
Je prends l'exemple de EA parce que c'est, je pense, la société la moins aimée de l'univers du jeu vidéo. Mais c'est vrai que n'importe qui d'autre aurait fait ça, ça aurait peut-être été un petit peu compliqué. Et c'est pas la fin du monde. C'est juste un exemple de, effectivement, Nintendo, à mon sens, a un petit peu un passe-droit de la part des gamers. Je sais que certains sont pas du tout d'accord, mais bon, pour moi, c'est un exemple de ça. Et encore une fois, moi, j'adore Nintendo et j'ai une vraie affection pour la console. C'était la Super Nintendo, Nintendo Entertainment System était l'une de mes consoles préférées. J'avais des Game & Watch à l'époque. Enfin bref, mais bon, c'est vrai que à mon sens,
c'était le jeu de Hanafuda.
Lequel ? Ah, le jeu de Hanafuda, tu veux dire les cartes à jouer ?
Le fameux, ouais, les jeux de cartes.
Non, quand même pas, pas à ce point-là. Bref, voilà pour Nintendo. Tu sais quoi, je vais passer par les rumeurs pour les Game Awards avant de parler des jeux auxquels on joue, toi et moi. Donc les Game Awards, vous savez, c'est cette grande cérémonie qui se veut être les Oscars du jeu vidéo, portée à bout de bras par Jeff Keighley, qui l'a monté de toutes pièces suite à la fin de l'ancienne version de ce truc qui était sur Spike TV. Enfin bref, c'est tous les ans depuis quelques années la grande cérémonie de récompense du jeu vidéo. C'est un petit peu la fête à tout le monde, c'est un petit peu l'école des fans, tout le monde reçoit un trophée. Y a tellement de catégories que c'est impossible, c'est limite plus difficile de ne pas en avoir un si t'es un jeu un tout petit peu connu. Mais c'est aussi l'occasion de présenter des nouveautés. Il y a des rumeurs qui viennent se greffer au dernier jour avant la cérémonie elle-même. La cérémonie aura lieu le 7, je crois, mais ça sera au milieu de la nuit pour nous. Donc, vous pourrez la voir, c'est le 6 au milieu de la nuit, je ne sais plus. Entre le 6 et le 7. Et donc, il y a, en dehors des récompenses qui sont toujours un bon moment, un truc sympa à passer, il y a des annonces. Et on sait notamment, surtout avec le fait qu'ils soient un petit peu seuls aujourd'hui dans cette période de l'année, puisque Sony a décidé de ne pas faire son PlayStation Experience. Peut-être qu'on verra des trucs de la part de Sony, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, il y a d'autres sociétés, d'autres éditeurs qui vont avoir l'occasion de présenter des choses là-bas. Notamment Obsidian, qui va présenter son prochain jeu. Et c'est marrant parce que, a priori, c'est un petit peu une suite spirituelle des anciens Fallout, des Fallout avant que Bethesda ne récupère la licence, qui étaient des jeux vraiment très très hardcore RPG, vue isométrique de dessus, qui comment dire, et c'est intéressant parce que ça arrive au moment où Fallout 76 a beaucoup déçu les gens. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, voilà, Fallout 76 a déçu tout le monde, donc les gens vont pouvoir s'enthousiasmer pour le Fallout d'Obsidian », surtout qu'il est créé par les créateurs du Fallout originaux. Hein, c'est Tim Kaine et Leonard Boyarsky qui sont derrière ce jeu, dont on n'a pas encore le nom ni rien. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui partent du principe que les fans de Fallout vont retomber sur ce jeu d'Obsidian, alors qu'en fait, je pense qu'il y a quand même beaucoup de fans de Fallout qui sont devenus fans avec Fallout 3, Fallout New Vegas et Fallout 4, et pour qui un jeu en isométrique vu de dessus, si c'est cette forme qu'il prend, c'est pas du tout leur truc, quoi. Donc je pense que ça va faire plaisir à des PCistes barbus, mais je suis pas convaincu que tous les fans de Fallout d'aujourd'hui soient intéressés par ce jeu.
Eh ben écoute, je sais pas, t'as peut-être raison, peut-être pas. Et en fait, je verrais le... Tu vois, si on peut faire un parallèle par rapport à Wasteland 2, qui a fait, à mon avis, un joli succès par rapport à... quand même au jeu de niche que c'est, je me dis que finalement Fallout, Fallout est très très inspiré de Wasteland 1, les premiers Fallout, et donc je me dis que ce retour aux sources, peut-être qu'il n'aura pas le succès d'un New Vegas par exemple, parce qu'effectivement c'est quand même plus hardcore et plus orienté sur, j'imagine, du narratif, du descriptif, du texte, etc., plutôt que des scènes d'action en 3D. RPG action, mais je me disais quand même un public pour ça, et personnellement, par exemple, j'étais déçu par les deux derniers Fallout, que j'ai pas trop aimé, le 76 par exemple, on en parlera un peu plus tard peut-être, mais bof quoi, et je préfère nettement en fait la façon dont les anciens Fallout étaient amenés à l'époque. Alors maintenant, est-ce qu'on peut revenir en arrière comme ça et se dire, ouais, les jeux que j'ai aimés il y a 20 ans, si on les remet au goût du jour, est-ce que ça a fonctionné? J'en sais rien. Mais je dois t'avouer que j'ai kickstarté Wasteland 2 il y a quelques années, et j'y ai joué, je l'ai terminé, et j'ai passé un bon moment.
Oh bah écoute, il y a des gens comme toi, hein, c'est sûr. Il y a des gens qui vivent dans le passé, qui n'arrivent pas
à... Ah, Diablo. Il y a que ça, le 2, le 3, c'est nul.
Donc oui, il y a des gens effectivement comme ça, c'est sûr. La seule chose que je dis, et ceux-là seront très contents du nouveau jeu d'Obsidian, j'en suis certain. La seule chose que je dis, c'est que les fans de Fallout dans leur ensemble, c'est devenu un truc beaucoup plus gros que ça ne l'était à l'époque. Bien et sûr, tu parles de Wasteland 2, tu évoquais le fait que c'est un petit peu un jeu de niche, et effectivement, c'est le cas. Donc, c'est pas du tout la même.
Il faut voir comment ils vont positionner le truc, hein, mais c'est sûr que si c'est un jeu en isométrique, avec
comme
des graphismes datant d'avant-guerre et des pages de texte comme ce que fait souvent Obsidian, il se peut que ce soit effectivement, enfin, ça n'arrivera sans doute pas en termes de vente à la chute d'un New Vegas, par exemple.
C'est ça. Donc là, c'est déjà annoncé, on sait qu'il va arriver. Entre parenthèses, on se souvient que Microsoft a racheté Obsidian, mais ce jeu-là fait partie des contrats signés avant le rachat, donc il sera sans doute disponible sur toutes les plateformes et pas que sur les plateformes Microsoft. À côté de ça, on a, là donc c'était une news confirmée, on a des rumeurs. L'une des rumeurs, c'est la présentation du nouveau jeu de Rocksteady qui a fait les fameux Batman Arkham, et on serait toujours dans l'univers DC. On a longtemps entendu parler d'un jeu Superman, développé par Rocksteady, donc après Batman. Il semblerait qu'en fait, on s'oriente plus vers un jeu avec un groupe de super-héros, selon Jason Schreier, qui décidément en ce moment sort un scoop par semaine. Donc plutôt un jeu de super-héros avec plusieurs super-héros. Donc on pense tout de suite à Justice League, parce que dans l'univers DC, c'est le groupe le plus important, et qui serait un petit peu un jeu as a service, un jeu service comme Destiny, etc. Donc voilà, c'est possiblement un truc qu'on va entendre de la part de Rocksteady, et vu le succès de la série Batman Arkham, évidemment, on est hyper attentif à ce qu'ils vont faire. Un truc qui va... Tu me dis, hein, quand tu as des...
Ouais, non, mais c'est. Écoute, j'ai un peu de mal avec les héros DC, ça m'amuse moins en général, et l'univers me parle moins. Donc, tu m'avais dit, ouais, il ferait un truc similaire chez les Marvel, pourquoi pas, mais même, bon, je trouve qu'il y en a en fait beaucoup des jeux de ce type ces derniers temps, et faut voir ce qu'ils vont en faire pour se différencier.
T'avais pas aimé les Arkham?
Si, ils sont bien, mais finalement, tu regardes le 2, le 3, les gens vont me sauter, vont me hurler dessus, tu vois, mais la différence est pas énorme entre chaque épisode. La recette est fantastique, ils ont fait un jeu fantastique, mais finalement, je pense que le 2 a perfectionné pas mal la série, et les améliorations entre le 2 et le 3, par exemple, sont...
Je suis d'accord. Le 2 était une belle expansion de ce que pouvait faire le cœur du truc du 1. Et je crois que c'est le meilleur, le 2. Le 3, enfin, ça dépend si on parle de Origins ou du vrai 3, ou de Dark Knight, je crois, ou Dark Knight Rises, je sais plus, bref.
Dark Knight Rises, oui. Enfin,
c'est les non, mais bon, entre Batman. Oui, le troisième vrai de Rocksteady, quoi, pas celui qui a été fait par l'autre série. Mais oui, bon, mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait un tellement beau boulot en établissant, c'était le premier jeu vidéo de super-héros qui marchait, qui était bien, le premier Arkham, donc le Arkham Asylum. Et donc, c'est intéressant d'imaginer ce qu'ils pourraient faire en repartant sur d'autres bases et pas forcément devant se trimballer l'héritage de la série Batman Arkham, quoi.
C'est ce que j'espère. Ouais. Mmh. Pour moi, ce que j'attends d'eux, c'est l'innovation. Et quelque chose de différent, sans se baser sur une formule qui est tout à fait rodée et qui a eu beaucoup de succès.
Ouais, bah écoute, jeu as a service, donc voilà, déjà ça s'est établi entre Destiny, Anthem et ce genre de choses. Mais bon, c'est un petit peu à cette sauce qu'on est tous mangés en ce moment, quoi. Une autre rumeur qui fera plaisir aux 10 fans de Nintendo dont je parlais tout à l'heure, il est possible que les relations excellentes entre Jeff Keighley et Nintendo, et notamment Régis Fils-Aimé, nous donnent un trailer de Metroid Prime 4 pendant les Game Awards, peut-être à la fin, hein, ça serait un énorme morceau. Ça serait... pas mal, ça serait très intelligent de la part de Nintendo s'ils ont quelque chose à montrer, parce que pour le coup, ça mettrait tous les projecteurs sur la Switch, et donc ça encouragerait les gens à en acheter pour Smash Bros, entre autres, je pense. Donc, même si on n'a pas forcément besoin de plus de motivation pour si on est déjà fan de Smash Bros, mais il n'empêche, ça serait genre encore une raison de se dire « Ah bon, bah écoute, Metroid Prime 4 arrive l'année prochaine, je vais me prendre une Switch maintenant, en plus il y a quelques jeux sympas. » Je pense que ça serait bien joué, mais je ne sais pas si on peut y croire.
J'espère, étant grand fan de Metroid, de toute façon, j'attends ça avec impatience.
ton micro coupe un petit peu tout le temps. Je ne sais pas ce qui se passe, mais la qualité n'est pas incroyable. Mais bon, écoute, on va faire avec.
J'espère que ce ne sera pas tout pourri pour les auditeurs, alors.
Oui, j'espère aussi. Désolé hein, pour la qualité. Mais bon, la douce voix de Dani compense, j'en suis sûr. On parlait de jeu as a service, et qui dit jeu as a service dit Anthem, qui arrive bientôt. Entre parenthèses, l'alpha fermée de Anthem a lieu début décembre, et vous avez jusqu'au 3, je crois, pour vous inscrire si ça vous intéresse. Donc vous pouvez y aller. Mais BioWare disait il y a quelques jours qu'ils auraient des infos sur la série Dragon Age à nous donner en décembre. Alors évidemment, quand on dit en décembre, l'événement de décembre, c'est les Game Awards. Aller plus loin que, on va dire, le 10-15, ça devient compliqué parce qu'après, tout le monde est en vacances, donc les news ne portent plus tellement. Donc il est possible qu'on ait des nouvelles de Dragon Age aux Game Awards également. Et ils en profitaient pour dire que Mass Effect était toujours une grosse priorité pour eux. Donc, ils sont toujours en train de travailler sur des jeux Mass Effect, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, je pense, même si Andromeda a déçu beaucoup de monde. Donc oui, Dragon Age, pourquoi pas. C'est vrai que la série a eu des hauts et des bas, mais c'est bien de voir...
Elle a commencé très fort, disons, et ensuite, ça s'est un peu essoufflé avec le temps, je trouve. Mais...
Bah, le 2 était quand même une grosse déception.
Oui, l'Inquisition était assez... Enfin, je l'ai pas du tout aimé, j'ai trouvé creux et inintéressant.
Ah oui.
D'accord. Donc, ouais, j'avais beaucoup, beaucoup d'espoir, en fait, pour ce jeu que j'ai précommandé. Et depuis, je me suis dit, je ne précommanderai plus jamais de jeu BioWare avant qu'il redresse le cap.
Et bien, peut-être que ça sera l'occasion. Ouais. Ça serait... Oui, c'est vrai qu'Andromeda, pour le coup... Bon, ça serait peut-être l'occasion. En tout cas, on risque d'en voir un petit peu plus. Et puis enfin, là, c'est pas tout à fait sûr que ça soit au Game Awards, mais il y a Koei Tecmo qui semblerait vouloir annoncer son prochain jeu le 6 décembre, donc c'est la veille des Game Awards. Mais peut-être que du coup, il l'annonce le 6 et puis ils en parlent un petit peu plus au Game Awards. Ils le présentent un petit peu plus au Game Awards. C'est pas impossible non plus. Donc voilà pour les rumeurs pour les Game Awards. En tout cas, c'est toujours un bon moment et c'est l'un de ces événements qu'on a plaisir à suivre en tant que gamer. Et puis oui, chacun a ses jeux de l'année, chacun a ses cérémonies, il y en a plein. Et ça ne veut pas dire que celle-là, c'est la seule qui compte. Mais c'est une de plus qui est marrant et intéressante, quoi. Bon, parlons un petit peu des jeux auxquels on est en train de jouer. Et je sais que tu m'as mis toute une série de jeux que tu étais en train de tester, ou pas de tester, mais enfin, qui t'occupaient en ce moment. On va peut-être pas parler de tous les jeux, mais j'aimerais bien avoir tes impressions très rapides sur Red Dead Redemption 2, dont on a beaucoup parlé dans l'émission avec, disons qu'on n'est pas forcément tous d'accord, mais dans l'ensemble, je crois que la plupart des gens avec qui j'ai parlé étaient déçus de Red Dead Redemption 2. Est-ce que c'est ton cas aussi ?
Écoute, au début, je dois t'avouer que les premières heures m'ont plu, et plus j'y ai joué, plus je me suis surpris à apprécier. Mmh. T'as l'impression de faire un peu une balade en nature, en fait, par moment. Alors, il se passe pas tout le temps des choses passionnantes, tu passes beaucoup de temps à voyager à droite à gauche, à chasser des lapins et des loups pour capturer ton cheval et t'acheter un nouveau flingue. Mais sinon, globalement, comme toujours, je trouve chez, sur ce genre de jeu, Rockstar, ils ont fait des personnages qui sont plutôt pas mal, une scénarisation plutôt chouette, des acteurs qui sont très très bons. Je trouve que Dutch, par exemple, il est très fort pour ceux qui ont vu un peu comment il est.
Ouais, pas de spoiler, hein, j'ai pas assez avancé, ouais. Encore.
D'accord. Mais globalement, moi je trouve deux défauts au jeu. Alors effectivement, il manque un peu de rythme. Alors c'est plus un simulateur de balade au Far West qu'un vrai jeu d'action à proprement parler.
C'est marrant, c'est comme ça que je le décris, ouais. Généralement, je le décris comme un simulateur d'Arthur Morgan, plus qu'un jeu.
Voilà, c'est ça, c'est un simulateur d'Arthur Morgan. Ça fait un fossé énorme, en fait, par rapport à Red Dead Revolver, par exemple, qui était le grand-père de la série, où là, c'était un pur jeu d'action, et là, on est passé à l'opposé. Alors, il y a pas mal de scènes où tu flingues des dizaines de personnes, etc., comme d'habitude, mais elles sont assez espacées les unes entre les autres, et finalement, c'est pas forcément un mal. Moi, le truc que je reprocherais au jeu, c'est comme sur GTA V, en fait, que j'avais beaucoup aimé aussi, même si enfin, piquer des bagnoles et taper des nanas, ça, c'est pas trop mon genre, mais le jeu m'avait beaucoup plu. Le gros défaut, c'est vraiment l'ergonomie. Je trouve que l'ergonomie des jeux Rockstar est juste dégueulasse.
Et un truc, bah, je pense que tout le monde est d'accord sur ce jeu, hein, c'est marrant, mais tout le monde a la même analyse, et c'est un truc qu'on pouvait excuser en 2013 quand GTA V est sorti, mais maintenant ça fait un petit peu, c'est un petit peu inacceptable. Tu sais, à force, moi je pense que Red Dead Redemption 2 va pas être dans les, va pas être le jeu de l'année de beaucoup de monde. Je crois qu'il va pas du tout être le jeu de l'année. Comme beaucoup de gens pensaient, moi y compris, bien sûr, avant sa sortie. Ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs et de joueurs qui s'attendent encore à se dire « Ah, voilà, Red Dead Redemption 2, pur produit marketing, en plus c'est le plus gros jeu de l'année, automatiquement ça va être le GOTY. » Je pense vraiment que, pour tous ces défauts que tu as expliqués et dont on a parlé, je pense qu'il y a plein de gens qui ne vont pas le mettre au top 1 de leur jeu de l'année, quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être surpris. Moi, c'est ma prédiction. Red Dead Redemption 2 ne sera pas le jeu de l'année. Ensuite, de qui ça veut... Ouais.
Il est bien, hein, mais il n'est pas parfait. Non, mais tout à fait. Et je pense qu'il a beaucoup, beaucoup de qualités. Mais je pense que ses défauts sont aussi... Je comprends que ça puisse être rédhibitoire pour pas mal de joueurs.
Ouais. Donc, bon, on verra si ma prédiction s'avère exacte, mais je crois qu'il y a effectivement encore beaucoup de gens qui disent « Oh, ça va forcément être le jeu de l'année, même si, machin. » Et en fait, je crois pas. À propos, un autre gros jeu, entre guillemets, qui t'a pas non plus beaucoup plu, c'est Fallout 76.
Alors celui-là, par exemple, non. Red Dead, j'aime et je le terminerai, je pense. Fallout 76, j'ai joué une heure et j'ai trouvé ça, mais... Waouh. Ça me plaît pas du tout, du tout, du tout, du tout. Et pourtant, je suis amateur de la série. J'ai beaucoup aimé New Vegas, par exemple. Je trouve que la recette prend pas, l'immersion est pas là, et globalement, t'as pas envie de progresser dans un jeu. Alors, l'ergonomie là aussi, elle est pas terrible. Hein. Je pense qu'il est peut-être. J'y ai joué sur PS4 Pro. Donc peut-être que sur un PC avec clavier souris, il serait beaucoup plus agréable. Mais je pense que ni l'ergonomie, ni l'ambiance, ni les dialogues, ni le scénario, ça donne vraiment pas envie d'avancer. Du tout.
Tu sais, il y a quelques personnes qui aiment Fallout 76, mais ouais. La plupart des gens sont très frustrés. Même ceux qui veulent y jouer quand même et qui aiment bien au final sont tellement frustrés par énormément de choses dans le jeu. D'ailleurs, Bethesda a promis 2 patchs en décembre qui devraient arranger beaucoup des problèmes du jeu. Mais comme on l'a dit, je crois qu'on en avait discuté à l'épisode précédent, c'est un énorme... Ah, peut-être qu'on n'en a pas parlé, c'est possible. C'est vraiment, c'est le truc... Comment dire ? L'épisode de trop où Bethesda, on sait que leur jeu sort tout cassé. Et ouais. Je ne sais plus qui disait ça, c'était peut-être chez Gamekult. Il disait... On a trouvé ça marrant pendant très très longtemps... Et donc, on leur a excusé en disant « Ah, c'est Bethesda, ça va ». Et là, c'est juste plus drôle, quoi. La blague prend pas parce que ça suffit. Donc, je crois que c'est un truc dont ils devront ils devront s'en souvenir pour le prochain. Et d'ailleurs, je sais pas si t'as vu, mais même l'édition Super Collector Power Armor à 200$, t'as vu cette histoire ?
Ouais, c'est incroyable.
En fait, ils étaient censés avoir, donc il y a un gros casque, il y a plein de trucs dans l'édition collector à 200$ évidemment, mais ils étaient censés avoir donc le gros casque de la Power Armor, tout ça, et un sac en toile pour ranger le truc dedans. Au final, le sac est en nylon, un sac en plastique, en gros tout pourri, bon pas en plastique mais un sac en nylon, pas du tout ce qui était vendu dans la description du produit, et quand les gens qui ont dépensé 200$ quand même pour ce jeu sont venus s'en plaindre, ils ont dit « Ah oui, désolé, en fait, ça coûtait trop cher à faire. Contactez-nous, on vous donne 5€ de monnaie in-game dans le jeu pour compenser. » Et ces gens, mais qu'est-ce que vous faites, quoi ? C'est... Donc bon, rien ne semble réussir à Fallout 76, c'est assez terrible.
Ouais, non, c'est vraiment, c'est fonctionné, je pense, comme ils auraient aimé, hein, mais Bethesda, j'ai l'impression qu'il se repose beaucoup, beaucoup sur les lauriers et c'est plus la société que c'était au début des années 2000 quand ils ont sorti Morrowind et tu vois, je sais plus, je sais plus lesquels, mais même à partir de Skyrim, je pense qu'ils ont essayé de, enfin, peut-être la pas du gain ou de juste capitaliser en fait sur ce qu'ils savent faire sans vraiment essayer d'innover. Et je trouve que la différence entre Fallout 76, Fallout 4, qui reprennent vraiment les bases de Fallout 3 et New Vegas, c'est un bon exemple. Hein,
Ouais, je suis pas tout à fait sûr.
Sur une moyenne, non?
Moi, je crois que Fallout 4, c'était un essai, bon, qui n'était pas le meilleur jeu de l'histoire, mais c'était un essai, comment dire, un bon essai. Je pense qu'ils se sont mis à faire d'autres choses. Ils ont ressuscité Doom et Wolfenstein d'une manière spectaculaire. Tous les deux sont des jeux absolument excellents. Et on peut pas, tu vois, on peut pas dire ils se sont reposés sur leur laurier. Ils auraient pu.
T'as raison. J'avais oublié Doom, Shine, qui sont vraiment Doom. Je l'ai terminé deux fois.
Ouais. Ouais, on est d'accord. Donc il y a ça. Et puis je crois aussi que Fallout 76, c'était un truc qu'ils ont voulu tester. Ils se sont dit qu'est-ce que ça donnerait un Fallout en multijoueur. Bon, c'est pas un énorme truc. On va le vendre quand même un peu plus cher parce que voilà, c'est notre jeu de l'année. On n'a rien d'autre à présenter. Donc voilà, clairement, c'était un faux pas. Mais ils travaillent sur comment ça s'appelle Starfield. Ils ont Elder Scrolls 6 qui est dans les cartons aussi. Peut-être que ça arrivera qu'en 2020, 2021, on ne sait pas. Mais je crois qu'une fois que ces jeux-là seront sortis, on aura bien vite oublié l'épisode Fallout 76, qui est clairement un petit peu catastrophique, et même Fallout 4, qui était juste peut-être pas... Oui, voilà, un peu décevant, qui n'était pas le truc...
Mais décevant.
Voilà, c'est ça, c'était pas un mauvais jeu. Donc, c'est plutôt à la lumière de Fallout 76 qu'on se dit « Ah, ouais, en fait, ouais, tu vois, le Fallout 4, il était pas... » Mais moi, je crois qu'on aura vite oublié tout ça une fois qu'ils auront... Et effectivement, on a tendance à pas les associer avec Doom et Wolfenstein, mais enfin, vraiment, les deux, il fallait du courage pour les ressortir de leur placard, les réinventer et en faire des jeux à succès, intelligents, intéressants, bien conçus. Donc, bon... Pour moi, c'est...
Et c'est ça que je trouve dommage, tu vois, parce que finalement, par exemple, dans le dernier Wolfenstein, c'est le 2, ou je sais plus comment il s'appelle.
C'est le 2, ouais.
Ouais, les scènes de dialogue sont très bien jouées, elles sont bonnes, elles sont intéressantes, elles sont agréables à regarder. Et donc, ça prouve qu'ils savent en faire des vraiment bien. Simplement, j'ai l'impression que dans Fallout 76, je sais pas, c'était peut-être secondaire pour eux, mais enfin, j'ai pas du tout accroché à la façon dont c'est présenté et amené au niveau scénaristique.
Bah, j'ai l'impression que c'était... En fait, il n'y a même pas vraiment de NPC, ça passe tout par des enregistrements audio, etc. dans Fallout 76. Moi, je crois que ça a été un petit peu rajouté pour se dire, bon, on a une sorte de mode multijoueur de Fallout 4, on va le vendre tout seul, donc il faut quand même ajouter une trame narrative, machin, donc on va rajouter ça. C'est un truc qui a été fait, qui est fait de briquet de broc, Fallout 76, donc je ne pense pas qu'il faut le prendre comme une référence du truc. Si on parle de Fallout 4, par exemple, évidemment, les scènes d'histoire sont moins bien joués, moins bien scriptés, parce que c'est des trucs où les animations sont scriptées par rapport au... Enfin, c'est très basique, alors que sur un jeu comme Wolfenstein, tout est motion capturé. Donc là, évidemment, c'est un jeu narratif qui a une trame. T'as pas 60 000 donneurs de quêtes. C'est un petit peu comme comparer, je sais pas, Assassin's Creed Odyssey ou Mass Effect... Et un jeu comme un jeu de Naughty Dog, tu vois. Là, t'as une série de scènes qui vont s'enchaîner. Donc, évidemment, ils peuvent faire du motion capture, capturer les acteurs et tout. Mais dans un grand RPG où t'as 60 000 quêtes annexes, tu peux pas faire ça. Donc, on peut pas s'y attendre.
Tout à fait d'accord. Regarde, par exemple, à l'époque, hein, effectivement, la majorité des quêtes n'avait rien dans World of Warcraft.
Ah oui,
la majorité des quêtes n'avait rien du tout. Et il y avait scènes qui étaient scriptées avec des scènes d'animation immersives, etc.
Tu veux dire qu'ils pourraient en faire quelques-unes de scriptées
d'animation. Ils pourraient en faire quelques-unes, c'est ça, sur les quêtes principales de la trame principale. Aller tuer 10 moutons ou 10 rats radioactifs, on s'en fout. Mais finalement, les quêtes qui font avancer l'histoire, où il y a des rebondissements, etc. Je ne sais pas s'il y en a, je ne suis peut-être pas allé assez loin, mais c'est ce que je pense qu'ils auraient pu faire.
Bon, peut-être pour Starfield, alors, ça sera un petit peu plus travaillé, possible. Pokémon Let's Go, c'est un autre jeu auquel tu es en train de jouer. Alors, comme on l'évoquait au début d'émission, tu avais travaillé à la traduction des tout premiers Pokémon, et ça, c'est une sorte de réimagination des premiers Pokémon. Est-ce que la fibre de la nostalgie a vibré chez toi ?
Voilà, alors, donc, c'est un remake de Pokémon Jaune, comme je pense pas mal de gens sont au courant déjà, ils savent. Graphiquement, il est mignon, il est sympa. Il réinvente pas énormément l'histoire et le jeu, mais je pense qu'il y a, deux choses qui sont beaucoup, beaucoup plus agréables que dans l'original, à mon avis, ou dans les versions récentes de Pokémon. Premièrement, l'ergonomie du jeu. Alors là où je me plaignais, il y a quelques minutes, c'était de Red Dead Redemption 2, où on disait que l'interface était restée coincée en 2010. Bon, Pokémon, jusqu'à la version 3DS donc de l'année dernière, qui était Ultra Sun et Ultra Moon, eux, ils étaient restés carrément coincés fin des années 90. Hein, donc l'interface était horrible et c'était une purge, même si elle avait été un petit peu améliorée déjà par rapport aux autres versions du jeu qui sont sorties sur DS, 3DS. Maintenant, donc l'interface là, elle est à peu près agréable et sympa. Il y a encore elle est pas parfaite, mais au moins c'est plus un truc où tu te dis oh mon Dieu, mais quelle horreur, mais vraiment il devrait vraiment travailler là-dessus. Là, ça y est, il y a déjà ne serait-ce que des options pour traiter tes Pokémon de manière automatique. Par numéro de Pokédex, par date de capture, tu peux les traiter de plein de manières. Ça n'existait pas avant. Alors, quand t'as 20 Pokémon, c'est pas un problème, mais dans les derniers, quand même, ça montait jusqu'à 700 et quelques, ou peut-être plus, je sais plus.
D'accord. Donc,
voilà. Donc,
ça tu pouvais pas les trier un peu l'ampleur.
Non, pas de manière, il y a aucune manière simple de les trier. Il y avait pas assez d'imitateurs, en fait, pour les trier de certaines manières. Là, par exemple, tu vois, les trier dans l'ordre du Pokédex, pour moi, ça semble être la base. Et donc là, maintenant, c'est automatique. Alléluia.
D'accord.
Bon, alors, donc ça, déjà, c'est un gros plus. Et ensuite, ce qui est plutôt sympa, c'est le jeu est beaucoup, beaucoup moins grindy, en fait, qu'à l'époque. Donc, plus du tout besoin de farmer des Pokémon sauvages pendant des heures. Et la façon de les attraper, tu sais, comme sur la version mobile avec des Pokéballs, au début, je me suis dit, oh là, ça va être pourri, je déteste la version sur téléphone, même si je sais qu'il y a beaucoup de fans et que le jeu est très sympa, moi, ça me parlait pas du tout. Et là, en fait, c'est assez bien intégré dans le jeu, c'est plutôt des combats un peu plus rapides et sympas par rapport à ce qui était à l'époque où, tu vois, pour capturer un Pokémon, c'était la croix et la bannière, c'était compliqué, c'était long.
Ouais, et donc, puis il y avait là, les combats au hasard.
Ouais. Et là, tu les vois sur la carte, tu vois le Pokémon que tu vas attraper ou pas, tu peux éviter les autres et ça déjà c'est un confort de vie majeur pour tous les fans de Pokémon. Maintenant le truc que j'aime moins, c'est surtout les combats contre les dresseurs, les entraîneurs de Pokémon. Là par contre t'as deux plombes d'animation à chaque fois avant de pouvoir commencer à te battre et donc ça fait une sorte de temps mort en fait, de creux dans le jeu. Bon ensuite c'est un défaut mineur, je pense qu'il pourrait corriger facilement, mais globalement le jeu est très sympa.
Est-ce que pour quelqu'un, c'est la question que je pose à tout le monde, pour quelqu'un qui a raté le train Pokémon, parce qu'à l'époque, comme je le dis souvent, moi j'étais un grand, tu vois, j'étais vieux déjà, et ça c'est Pokémon, c'était pour les enfants, du coup j'ai raté le train, est-ce que c'est l'épisode pour s'y replonger, ou est-ce qu'il vaut mieux attendre le vrai épisode Switch nouveau et pas juste une sorte de semi-remake du premier ?
Je pense que c'est un bon épisode pour s'y replonger. Maintenant, il faut savoir une chose. Pokémon, si toi t'as pas été dans le train Pokémon à l'époque, c'est quand même un jeu qui est très ciblé pour enfants. Donc, t'attends pas à une histoire merveilleuse, t'attends pas à des dialogues palpitants, etc. Mais par contre, sinon, c'est un épisode très très sympa pour y jouer. Et bon, ensuite, je sais pas si je conseillerais ça à un adulte qui a déjà beaucoup beaucoup joué. Mais bon, par rapport aux versions 3DS, il y a un gros progrès. Et honnêtement, je serais surpris. Enfin. J'espère que Nintendo nous surprend, enfin Game Freak's écriture surprendront, tu vois, la Pokémon Company, mais disons que je sais pas comment ils vont pouvoir vraiment innover ou améliorer sur les fondations qu'ils ont mis sur celui-là. Donc le jeu étant déjà très rodé, solide, et comme tu le sais, en général, les jeux japonais évoluent pas énormément. Je suppose que tu as joué à Dragon Quest 11, par exemple,
où
voilà, le jeu est sympa, mais c'est, disons, avec les graphismes en moins, il aurait pu sortir en 89. Hein.
Ouais. Ben, c'est intentionnellement un trip nostalgie et je crois que
oui.
Pokémon est un petit peu... c'est difficile de se départir complètement de cette part de l'identité du jeu, c'est vrai. Ouais.
Exactement. Et je pense qu'il y a pas mal de gros succès de séries japonaises comme ça, de l'époque où les développeurs se disent « Ouais, on peut pas du tout enlever ça, hein, tu vois, les 5 ouais. messages pour sauvegarder. Ah bah non, on va les laisser parce que c'est c'est symptomatique
de
ce que les gens aimaient à l'époque. Ouais, c'est très, très japonais. Mais voilà. Et là, je trouve qu'ils ont beaucoup amélioré... Donc la recette, le jeu, je sais pas comment ils vont le vrai Pokémon de l'année prochaine dont tout le monde parle, on verra comment il sera, hein. Mais celui-là est franchement sympa et c'est assez mignon. Si tu l'achètes demain, je pense pas que tu passes 40 heures, mais je suis sûr que tu passeras 4-5 heures dessus avec plaisir.
Ouais. Bon, tu sais, si j'avais pas 60 000 jeux auxquels jouer, peut-être que je testerais, mais...
Ouais, en ce moment, c'est l'enfer. Il y a beaucoup de jeux sympas, donc il faut choisir. Ouais.
Donc, bah, parlons de la suite. Un petit peu rapidement, tu joues à Diablo sur Switch. Je pense qu'il n'y a pas 60 000 trucs
encore,
à dire.
Encore, ouais, je me suis replongé.
Mais comment t'as... enfin, je comprends pas. Tu as passé des centaines d'heures déjà sur PC. Pourquoi y rejouer ouais, sur Switch?
Je sais. Eh ben, écoute... voilà, je sais pas. Mais d'accord. C'est un bon format. Le jeu tourne bien. C'est agréable et c'est sympa et bah j'adore Diablo. Hein. Il y a rien de plus défoulant, je trouve, après une journée de boulot un peu stressante, que d'aller faire exploser des millions de démons dans tous les sens.
Écoute, c'est une bonne raison. Il y a Spyro Trilogy, de laquelle j'ai entendu beaucoup de bien. Spyro ouais. aussi, c'est un jeu. Bon, c'est un remake de Spyro de l'époque. C'est un jeu dont avec lequel j'ai pas une affection particulière. C'est un petit peu comme comment il s'appelait Crash Bandicoot. Bon, j'y ai joué un peu, mais sans plus. Je suis curieux que tu te sois mis à jouer à Spyro Trilogy. Je comprends pas d'où tu l'as sorti.
En fait, j'ai de la chance déjà. J'ai les jeux assez facilement, donc c'est pas très compliqué pour moi. Tu vois, j'ai pas claqué 60 balles pour.
Spyro, alors est-ce que tu l'aurais acheté si t'avais dû le payer? C'est important ça, effectivement.
Peut-être. Écoute, avec du recul, j'ai passé peut-être, je pense, 5-6 heures dessus. Peut-être. Fallout 76, non. Red Dead, je l'aurais fait, oui. Spyro, peut-être. C'est pas. C'est les animations, les graphismes, l'ambiance sont magnifiques. Et je pense que c'est un. Bah, le jeu de plateforme en lui-même, ça reste un bon jeu de plateforme sympa. Mais ils ont vraiment su remettre au goût du jour les graphismes et c'est vraiment très très mignon. Et tu vois, par exemple, pour ton fils, quand il aura. Ils ont. 4-5 ans de plus, 6 ans peut-être. Dans 6 ans, c'est un super jeu, c'est un très bon jeu de plateforme 3D pour les enfants. Il n'est pas facile, mais par contre, il est très très mignon. Et voilà, donc je jette un coup d'œil, c'est sympa.
D'accord, bon. Et enfin, celui pour lequel j'attendais ton avis avec impatience, c'est le fameux jeu Ken le survivant, Feast of the North
Star. Le meilleur
Star,
de tous les temps.
C'est Eden machin. Alors, c'est une sorte d'adaptation de Yakuza. Mais dans l'univers.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
De Ken le survivant, et tout ce que j'ai entendu, c'est que c'est vraiment, même si on est fan de Ken le survivant, c'est quand même un petit peu une merde ce jeu.
Alors,
est-ce
attends,
que tu confirmes?
Pour remettre les choses en perspective, il y avait celui sur PS3, je sais plus comment il s'appelait, c'était Ken's Rage ou un truc comme ça. Bon, celui-là, c'était vraiment une merde. Hein. C'était horrible, je me suis fait violence pour le terminer. Je suis un grand fan de Ken le survivant, donc la version PS3 était mais immonde. C'était un des plus mauvais jeux auxquels j'ai joué sur la PS3, je pense.
D'accord.
voilà. Et c'était justement un Koei Tecmo. Donc, quand t'as parlé de la prochaine annonce de Koei Tecmo, etc., j'ai pas les meilleurs souvenirs. Bon, maintenant, ça mis à part, évidemment, c'est le meilleur jeu de l'année pour moi parce que c'est Ken le survivant. Mais objectivement, pour quelqu'un qui n'aime pas Ken le survivant, il faut surtout pas y jouer. Hein, c'est pas terrible. Pour quelqu'un qui aime, c'est un jeu sympa parce que finalement, tu peux. C'est un Yakuza qui se passe dans le monde de Ken,
T'es un peu plus libre que dans, enfin, t'es beaucoup plus libre et le monde est beaucoup plus ouvert que dans tous les autres jeux Ken qui existaient par le passé. Maintenant, maintenant, ce qu'il faut voir, c'est le jeu est sympa, il est pas passionnant non plus. Et il est assez grindy, donc c'est plutôt orienté fan japonais de la série, plus que nos autres occidentaux. Tu vois, je connais quelqu'un qui est en train d'essayer de passer le trophée Platinum et il m'a dit qu'il avait passé 100 heures dessus. 100 heures. Donc, c'est, voilà, ça laisse mettre les choses en perspective. Ensuite, le jeu est sympa, les combats sont plutôt fun, mais par contre, c'est très très répétitif.
D'accord. Bon, bah très bien. C'est à peu près ce à quoi je m'attendais de ce jeu-là. Je pense que c'est effectivement à réserver aux fans.
Voilà, je pense que quand il sera en solde, tu vois, à 20 euros, c'est un jeu sympa. Mais c'est sûr que le payer plein pot, il faut beaucoup beaucoup aimer la série.
Ok, mais bon, c'est pas une purge totale, contrairement à.
Non,
à
non, je te conseille de jouer à celui sur PS3, une heure ou deux, tu verras ce que c'est qu'une purge totale et un jeu horrible.
Bon, je crois que je ne vais pas suivre ton conseil. Moi, je joue à quoi bon, toujours Assassin's Creed Odyssey, que je me surprends à vraiment beaucoup aimer.
Alors, mais... ma question.
Oui.
Ayant joué à celui de l'année dernière, je me souviens plus du. L'assassin, c'est les pharaons.
Oui, Origins.
J'ai bien aimé. J'ai passé une vingtaine d'heures dessus, je pense. Mais qui était trop vaste et trop ouvert, à mon avis, avec plein de sous-quêtes annexes qui n'étaient pas super intéressantes. Qu'est-ce que ça donne, Odyssey? Est-ce que ça vaut le coup de le prendre? Je risque de devoir l'acheter, par contre. Je ne peux pas l'avoir gratuitement.
Ah oui, bon, ça change la réponse. Écoute, moi, en fait, je n'ai pas adoré le Origins. J'ai passé une dizaine d'heures dessus. Et j'ai pas accroché. Peut-être que le contexte me parlait moins que la Grèce antique. Peut-être que la construction des quêtes était un petit peu moins prenante. Mais bon, c'est quand même un petit peu le même jeu, quoi. J'aurais du mal à te dire, c'est complètement différent. Par contre, il m'a happé beaucoup plus vite. J'ai trouvé les combats plus dynamiques. Je me souviens pas s'il y avait ce système de capacité spéciale, quand on appuie sur un bouton, on peut déclencher des capacités spéciales. C'est que genre, on a des coups spéciaux, en fait. Et c'est vraiment sympa à jouer. Il y a plein de systèmes qui viennent s'ajouter les uns aux autres. Par contre, il est effectivement toujours très ouvert. Il faut faire des quêtes annexes si on veut progresser dans l'histoire, parce que on n'a pas assez d'XP en fait pour progresser dans l'histoire, ce qui était déjà un petit peu le cas du précédent.
Tout à fait.
Et donc, il faut aller faire des quêtes annexes. Mais là, c'est sur les différentes îles grecques. Et il y a. J'ai trouvé que dans l'ensemble, chaque île a une histoire un petit peu sympa. C'est une histoire qui se suffit à elle-même, en fait. Donc, les quêtes annexes t'emmènent sur ce genre de truc. L'histoire principale est plutôt intéressante. T'as envie de savoir ce qui se passe et qui est qui et qui fait quoi, etc. Donc. J'aurais du mal quand même à le conseiller à quelqu'un qui me dit j'ai pas du tout aimé Origins, même si moi-même j'ai pas aimé Origins et j'aime beaucoup Odyssey. Donc, je sais pas, tu vois, c'est difficile de te répondre. Ce que je peux dire, c'est que le gameplay est sympa, la construction du jeu est sympa. Le seul truc qui pourrait poser problème, c'est l'investissement en temps qu'il faut pour finir le jeu. C'est hyper, hyper, hyper long, quoi. Donc, c'est long et c'est sympa, moi ça me plaît, mais c'est quand même un investissement en temps conséquent.
Donc, je trouve que c'est un peu le défaut de ce genre de jeu. Alors, il y a des gens qui vont dire, ouais, 100 heures, c'est parfait, parce que c'est bien, tu vois, ça coûte, c'est un bon investissement, tu vas t'éclater pendant super longtemps, etc. Mais j'ai un peu de mal, en fait, avec ces jeux trop ouverts, où il y a trop de quêtes, trop de choses à faire, parce que finalement, ça dilue aussi l'impact et l'intérêt de l'histoire principale, qui, pour moi, est le facteur principal, en fait, dans le choix d'un jeu et du plaisir que j'aurai. Parce que les quêtes annexes où il faut aller tuer 10 bandits, ou aller piller un temple, bon, ça va, mais quand tu l'as fait 10 fois, ça commence à être un peu répétitif.
Bah, disons que c'est toujours ce genre de principe dans le jeu. Oui, il faut tuer 10 bandits, prendre un fort, prendre une mission, mais je sais pas pourquoi ça me dérange pas dans celui-là.
D'accord.
parce que c'est toujours fun. Et donc, tu as plus de fun pour le... Alors, évidemment, bon, on en reparle à chaque fois qu'on parle d'Assassin's Creed, mais il y a cette question de la microtransaction qui fait que tu peux payer 10 euros pour avoir un boost d'XP permanent, qui fait que, du coup, tu peux suivre la quête principale sans avoir à faire les quêtes annexes. Ce qui est... bon, ça pose plein de questions. Mais il n'empêche que moi, je m'emmerde jamais. Même si c'est la dixième fois que je prends un camp et que je dois aller tuer des bandits, ça ne me gêne pas, ça ne m'emmerde pas. Donc, il y a aussi des gens qui achètent ce jeu et ils vont y jouer pendant, tu vois, 6 mois, un an, parce qu'ils n'ont pas 50 jeux à faire à côté. Donc, pour ces gens-là, c'est un jeu qui va leur plaire et qui va leur en donner pour leur argent aussi. Je ne sais pas. C'est... En fait, moi, je le recommande vraiment parce que je trouve que c'est un très bon jeu, mais... il y a quand même tous ces petits astérisques qui font... Alors, comment dire ? C'est ce que je disais, j'essayais d'expliquer la dernière fois, je crois que je ne l'ai pas bien expliqué. En entendant les gens en parler, qu'ils décrivaient à peu près de cette manière, avec toutes les astérisques, j'ai eu l'impression que le jeu n'était pas super. Alors qu'en fait, c'est, en l'essayant, pour moi en tout cas, je trouve que c'est vraiment un super jeu. Et il a énormément de choses à offrir, et la plupart, je dirais pas tous ces éléments, mais 80% des éléments sont réussis. Le combat est fun, plus fun que dans Origins. Les histoires de mercenaires, c'est motivant. Les histoires de balance de pouvoir et de puissance sur les îles qui sont dominées par les Spartes ou les Athéniens, c'est sympa et tu peux déséquilibrer les trucs. Y a plein d'autres systèmes comme ça qui viennent se mettre les uns sur les autres. Et tous ces trucs-là sont sympas. Et donc, peut-être que l'une des raisons pour lesquelles je ne trouve pas ça répétitif, c'est qu'il y a genre... je ne sais pas, c'est pas qu'il y a deux types d'activités à faire. Il y en a 5 ou 6. Et donc, parfois, tu vas faire un petit peu l'histoire principale et tu vas avoir plus d'histoire. Parfois, tu vas aller sur une île et ils vont te demander de faire tel ou tel truc qui va nécessiter d'aller faire des missions. Parfois, il va falloir aller prendre un camp pour affaiblir le pouvoir en place et provoquer la bataille de changement de... Comment dire ? Le combat qui va te permettre soit de défendre, soit de reprendre le contrôle de l'île, etc. Donc, il y a plein de petits trucs différents. Et puis, parfois, tu es en train de faire un truc et il y a un mercenaire qui va arriver de nulle part et qui va vouloir te... Te tuer pour récupérer la récompense, etc. Donc, il y a plein de trucs comme ça. Et au final, ça fonctionne. Tout s'imbrique bien. Donc,
D'accord. Bah, écoute, tu me l'as quasiment vendu. Bon. J'ai trouvé une bonne offre de Noël en promo. Parce que je suis un vieux radin, mais...
Non, mais moi, je l'ai pris en plus pour Black Friday à 40 euros. Donc là, c'est carrément une bonne affaire, quoi. C'est effectivement, ça fait des. Je dirais, si vous êtes un petit peu hésitant, attendez Noël et il y aura certainement des offres à une quarantaine d'euros, c'est sûr. Et du coup, je dirais même, je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire en 2020 avec la série, parce qu'on sait qu'ils vont pas sortir de jeu en 2019, et donc ils prennent le temps de travailler le prochain opus. Et je suis du coup maintenant vraiment curieux parce que j'ai été très séduit par celui-là.
D'accord, bah écoute.
Donc voilà pour Assassin's Creed Odyssey, tu me diras un jour si tu l'as acheté, si j'ai été de bons conseils ou pas. Mais entre-temps, moi j'ai aussi enfin ressorti mon PlayStation VR, qui était dans son placard depuis plus d'un an maintenant, et je me suis dit, bon, il y a quelques jeux qui sont sortis... Non, c'est pas vrai, ça fait pas plus d'un an, je l'ai ressorti il y a quelques temps, quelques mois, mais... donc je l'ai rebranché malgré le fait que ça soit un ancien modèle qui fait pas passer le HDR, donc il faut que je débranche et je rebranche si je veux du HDR, etc. Mais j'ai joué à deux jeux. J'ai joué à Beat Saber et à Astrobot Rescue Mission. Je les ai achetés parce que je me suis dit, je vais les tester, tout le monde en dit du bien. Et franchement, j'ai été très agréablement surpris par les deux. Pour ceux qui ne savent pas, Beat Saber, c'est un jeu de rythme où on utilise les PS Move, les manettes qui captent le mouvement, le motion gaming, comme des sortes de sabres laser, qui ne sont pas vraiment des sabres laser, pour couper des formes qui arrivent vers nous. Et donc, on fait ça en rythme dans l'univers de réalité virtuelle. Et il est dispo sur PC depuis longtemps. Maintenant, il est disponible sur PlayStation VR depuis quelques jours. Et franchement, c'est vraiment un super jeu. Il y a deux questions qui se posent. Bon, d'une part, il n'y a peut-être pas assez de morceaux de musique. Sur PC, on peut mettre des modes plus ou moins officiels et avoir... Il y a une communauté, visiblement, qui crée des tracks pour plein de morceaux de musique connus. Et là, ils n'ont pas la licence pour la musique connue. Donc, c'est des trucs uniquement développés, enfin, écrits pour le jeu. Donc, bon, c'est un petit peu frustrant, mais c'est quand même des morceaux assez motivants, assez entraînants. Et puis l'autre truc sur lequel on peut se poser la question, c'est est-ce que ça serait pas aussi sympa si c'était pas en réalité virtuelle ? Et c'est possible. Il est tout à fait possible que ça soit tout aussi sympa si on pouvait jouer sur sa télé. Mais il n'empêche, en réalité virtuelle, ça ajoute quelque chose. Et franchement, alors il faut sabrer les formes qui arrivent dans un sens particulier. Il y a des trucs qu'il faut éviter en se décalant à droite, à gauche, en s'accroupissant, etc. Donc c'est bien, ça fait faire de l'exercice. Et j'ai passé un très très bon moment et j'ai envie d'y rejouer. Donc c'est enfin un jeu de réalité virtuelle auquel j'ai envie de jouer. C'est fou.
Après 3 ans, tu sais.
C'est ça, ouais, un petit peu. Et Astro Bot Rescue Mission, dont beaucoup de gens ont parlé comme d'une vraie réussite, enfin une sorte de système seller pour le PlayStation VR. Je sais pas si c'est un système seller parce que ça fait un peu cher juste pour jouer à un jeu, si c'est un système seller, parce qu'il n'y a pas énormément d'autres choses, même s'il commence à y avoir quelques offres. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un bon jeu. C'est vraiment un jeu de plateforme, disons, traditionnel des années 90. On parlait de Spyro et de Crash Bandicoot.
Crash, ouais.
C'est un peu ce type de philosophie. Sauf qu'on est dans un environnement 3D un petit peu plus comparable à l'environnement de Mario. C'est clairement inspiré de Mario. Et puis, on peut regarder partout, bien sûr. Et on est dans des niveaux où il y a plusieurs choses à faire. Il faut récupérer les autres petits robots. En fait, alors, comment ça fonctionne ? On le contrôle à la manette. On n'a pas les manettes Move, donc c'est vraiment la manette normale, et on doit évoluer dans le niveau. On peut regarder tout autour de soi, mais généralement l'essentiel du truc est devant soi, et puis parfois on doit regarder à droite ou à gauche pour trouver des trucs, mais essentiellement on avance et on contrôle le petit robot avec la manette comme on contrôlerait dans un jeu de plateforme classique, et il peut donc sauter, donner des coups de poing, etc. On avance et on doit trouver par niveau 8 petits robots, les atteindre et les récupérer. Et parfois, il y en a qui sont difficiles à trouver. Et c'est dans ces moments où soit il faut faire un truc de platforming un tout petit poil compliqué. Généralement, c'est pas très difficile. Ou alors bien se pencher pour aller regarder où ils sont. On les entend et on n'arrive pas à les trouver. C'est pas mal foutu. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que au niveau plateforme et au niveau réalité virtuelle, ils utilisent des mécaniques assez intéressantes. Je dirais pas que c'est des trucs invraisemblables où notre mind est blown tous les niveaux, mais franchement, c'est difficile de pas sourire, en fait, quand il y a cette nouvelle mécanique amusante qu'ils mettent en place. Je dirais que la réalité virtuelle est pas... Contrairement à Beat Saber, où ça pourrait sans doute... on pourrait y jouer sans réalité virtuelle. Là, je dirais que... je sais pas comment dire. Il y a peut-être la moitié du jeu, la moitié du plaisir du jeu qui disparaîtrait sans la réalité virtuelle. Ou peut-être un petit peu moins, c'est difficile à quantifier. Mais c'est vrai que quand on a le petit robot qui est juste devant notre nez, il y a en fait... J'ai l'impression que en réalité virtuelle, ce qui est vraiment sympa, c'est pas tant la profondeur du truc qu'on a dans les écrans, même si c'est pas de la 3D, mais c'est surtout le fait qu'on puisse avoir des trucs juste devant le nez, en fait. On a des trucs juste devant nous, et ça, c'est une sensation un petit peu différente. On peut les regarder, ils bougent de manière amusante, etc. Et c'est un plaisir qui n'existe pas vraiment ailleurs et qui donne le sourire. Vraiment, moi, j'ai le sourire en jouant à ce jeu. J'ai déjà fait... C'est relativement court, mais il coûte que 40 euros, je crois. Donc, j'ai fait 2 mondes sur 5. Mais il y a aussi des niveaux challenge qui sont assez inventifs et assez intéressants aussi. Il semblerait que au-delà des 3 premiers niveaux, enfin des 2 premiers niveaux, il y a encore des mécaniques à chaque fois qu'ils présentent, qu'ils introduisent et qui sont intéressantes. Il y a beaucoup d'inventivité et Je ne sais pas si je conseillerais le PlayStation VR aujourd'hui. Je dirais que l'année dernière, je ne conseillais pas le PlayStation VR. C'était vraiment, si vous êtes ultra méga fan de PlayStation VR, si vous avez hyper envie, c'était même il y a 2 ans, si vous avez hyper envie de savoir ce que c'est, à la limite, allez-y. Aujourd'hui, je dirais, vous n'en aurez pas pour votre argent toujours, parce qu'il n'y a que quelques jeux qui sont intéressants. Mais au moins, il y a ces jeux qui sont intéressants et ça vous donnera une ouverture vers l'univers de la réalité virtuelle avec, franchement, un casque qui est de qualité très acceptable. C'est pas le meilleur, c'est sûr, mais il est juste très acceptable, il est hyper confortable. Il m'est arrivé de jouer 2 heures d'affilée et je le sentais même pas. J'ai joué récemment avec mes lunettes et ça m'a posé aucun problème. Alors, j'ai pas une vue très très diminuée sans les lunettes, mais donc mes lunettes sont pas très épaisses, mais il n'empêche, aucun souci avec les lunettes dans le casque, ça a marché pour moi en tout cas. Et c'est si vous êtes intrigué par la réalité virtuelle, je pense qu'aujourd'hui le PlayStation VR est peut-être le meilleur deal pour commencer à l'explorer, et il y a quelques jeux sympas. Il y a Beat Saber, il y a Astrobot, il y a Moss, il y a Batman Arkham VR, etc. Il faut savoir que tous ces jeux, ça sera, je sais pas, peut-être 5-10 heures par jeu. Donc, même si on dit qu'il y en a 5, si on n'inclut pas Tetris Effect, par exemple, qui peut être joué sans VR, ça vous fera 25, 30, 40 heures de jeu à tout casser. À moins que vous soyez super enthousiaste pour la VR. Donc, ça reste un gros investissement pour ces quelques heures de jeu. Mais au moins, c'est une expérience que vous ne pouvez pas avoir ailleurs. Donc, je ne sais pas ce que vous pouvez faire de ce conseil qui n'en est pas un, mais c'est beaucoup plus positif que ça ne l'était il y a 1 ou 2 ans, par exemple, mon avis sur le PlayStation VR. Et clairement, Astrobot est un exemple de là où ça pourrait aller. Et du coup, je crois que si ce genre de jeu sortait régulièrement et que le casque n'était pas une tannée à brancher, je serais beaucoup plus positif sur la réalité virtuelle, à tel point que je me dis, si pour la prochaine génération de consoles, Sony sort un PSVR 2, un PSVR nouvelle version qui soit plus simple, même s'il a un petit câble qui ne soit pas aussi chiant à brancher, on a juste à le brancher et puis voilà. Il n'y a pas le boîtier externe et les HDMI qu'il faut brancher sur la console et sur la télé et machin. S'il y a juste un câble à brancher et un casque léger et de meilleure qualité, je me dis, ça pourrait être quelque chose de vraiment convaincant pour le coup. Donc, je suis un petit peu en train de me dire, on y arrive. On est à la version alpha ou bêta de la réalité virtuelle. Alors qu'il y a 1 ou 2 ans, on était vraiment en version test, premier test, quoi. Donc, voilà. T'as un casque PSVR, toi ?
Non.
T'en avais un et tu l'as revendu.
Non, je l'ai donné à un pote, parce que je m'en suis servi une fois 5 minutes. voilà. J'ai un peu de mal avec la réalité virtuelle pour le moment. Déjà, alors effectivement, tu vois, quand tu mentionnais la tannée que c'est à brancher, je suis bien d'accord. Pour moi, c'est un bordel de câbles et trucs innommables.
On est d'accord, ouais.
Et le jour où il y aura des casques avec une bonne autonomie et sans fil ou avec, disons, un câblage limité, je pense que ce sera un gros plus pour l'expérience.
C'est sûr.
Sinon, ouais. Ensuite, effectivement, tu vois le HTC Vive ou l'Oculus, ils sont tout à fait corrects. Je crois que j'ai jamais essayé, en fait, le casque PSVR, mais je pense qu'effectivement, c'est peut-être le plus sympa à voir sur le marché si tu as une console.
Ouais.
Enfin, c'est une console de salon type PS4, c'est vachement plus pratique à mon avis que d'avoir ça sur un PC dans un bureau, alors c'est que la sûr, PS4 ouais. Finalement c'est dans le salon, tu peux jouer avec des potes, etc. Maintenant j'ai pas encore trouvé d'expérience en VR qui me fasse dire oh, c'est génial, c'est incroyable, c'est ça qu'il faut. Mais bon là effectivement tu vends bien le truc, si jamais je devais l'essayer, je demanderais à essayer celui-là. Je crois que j'ai le jeu d'ailleurs, mais j'ai pas le casque, donc
faut le récupérer de ton pote à qui tu l'as donné. Mais je crois effectivement au minimum, là c'est le genre de truc qu'il faut aller essayer chez un pote, je pense. C'est vraiment, ça vaut le coup. Au pire, si vous en avez pas un et si vous voulez pas investir dedans, ce que je comprends, je pense que ça vaut le coup d'aller essayer chez un pote. Beat Saber, Astrobot, c'est des jeux sympas. Je crois que pendant le Black Friday, il y avait aux États-Unis des packs à $200 pour le PlayStation VR, ce qui là, pour le coup, je pense, vaut le coup. Malheureusement, en France, les packs pour Noël, ça va être genre 300 ou 350 euros toujours avec des jeux, ce qui est un petit, peut-être un petit peu cher. C'est le prix d'une console, le prix d'une Switch. Vaut mieux acheter une Switch si vous n'en avez pas déjà une, quoi, pour ce prix-là.
Oui, avec la Switch, au moins, t'as un catalogue de jeux énorme et en plus, d'autres environnements et utilisations que un casque où t'es coincé dans ton salon à 2 mètres de ta télé maximum.
C'est sûr. Disons que s'il y avait des packs à 200 euros, j'aurais dit, c'est quand même, ça devient intéressant, mais 300, je suis pas...
Ouais, c'est ouais. un peu cher pour ce que c'est.
Ouais. Bon, bah voilà pour les jeux auxquels on a joué ces dernières semaines. On va conclure avec quelques news rapides. Il y a Red Dead Redemption, c'est Red Dead Online qui est disponible en bêta depuis quelques jours en fonction de la version du jeu que vous aviez. Moi, je me suis créé un perso sur Red Dead Online. J'ai joué 2 secondes. J'ai été surpris de voir qu'il y avait une trame narrative solo, en fait, dans le
D'accord.
jeu. Ouais. Un petit peu. Il y a plein de trucs. Il y a des systèmes intéressants. Il y a, pour éviter que de se faire tuer à répétition par quelqu'un, il y a un système de parley et de feud. Mmh. Donc, comment dire, parley, c'est négociation et feud, c'est combat ouvert, quoi. C'est-à-dire que si on se fait tuer à plusieurs reprises par la même personne, on peut décider soit de faire un parley, c'est-à-dire qu'on ne peut plus se tuer et il faut discuter. Et donc, on discute et on dit, ah ouais, ok, bon, t'as fait ça, j'ai fait ça, ok, va te faire voir, et puis on se sépare. Pendant 10 minutes, on ne peut pas se tuer, en fait. Donc, bon,
ça enlève le mode PVP avec cette personne,
c'est ça,
en fait.
C'est ça. Exactement.
Ouais. C'est pas mal.
Et le mode guerre ouverte, c'est genre, bon, ok, on veut se mettre sur la gueule pendant, je ne sais plus, c'est 3 ou 5 minutes, et ben, on est tous les deux l'un en face de l'autre, et on se tire dessus, et on se tue à répétition. Donc là, c'est carrément, là, c'est clair, quoi.
Ouais, ok.
C'est marrant. Il y a un mode, une sorte de mode Battle Royale qui est intéressant, qui est là pour le coup l'un des modes de PVP en arène, où on est un certain nombre de joueurs, pas autant que dans les autres Battle Royale, mais on a chacun soit un arc avec quelques flèches, soit 6 couteaux de lancer et un couteau classique.
Ah oui.
Et donc, c'est vraiment chaque... d'ailleurs, il s'appelle chaque arme compte ou chaque flèche compte ou je ne sais plus. Ou make it count en anglais. Donc, vraiment, il faut choisir quand on va lancer une flèche, quand on va tirer une flèche, parce que sinon, on peut se retrouver très vite dans l'embarras.
En plus, là, les couteaux de lancer avec la portée et les dégâts pourris que ça a dans le jeu, je n'ose même pas imaginer comment ça va être dur contre un adversaire intelligent.
C'est ça, mais donc ça veut dire qu'il faut essayer de s'approcher de l'ennemi pour pas gâcher un couteau et le tuer. Bon, d'une part, soit si on utilise un couteau de lancer, sinon le tuer au couteau, au corps à corps, quoi. Donc, bon, il y a plein de petits trucs comme ça. Il y a la question des microtransactions qui est encore là. On peut choisir d'être honorable ou un vrai bandit. Et dans ce cas-là, c'est pas les mêmes missions qui sont disponibles. Mais on peut aussi, par microtransaction, changer visiblement, hein, d'après ce qu'on semble deviner, on peut changer son statut de honorable ou pas honorable. Donc, bon, on verra comment ça se passe, mais ça pourrait être un moyen d'avoir accès à d'autres missions qui sont intéressantes. Mais on ne peut pas avoir accès à toutes les missions, peut-être à moins de faire changer son statut rapidement avec les microtransactions. Donc là, il y a un petit point d'interrogation là-dessus. Et voilà, donc Red Dead Online qui arrive, il est en bêta encore maintenant. Mais si vous avez Red Dead, vous y avez accès gratuitement, bien sûr, donc vous pouvez aller l'essayer. Bungie a parlé de Destiny 2 et de sa série d'extensions. Je voulais juste en parler 2 secondes pour dire que le niveau... en fait, ils vendent un Season Pass. Hein, aujourd'hui, c'est plus des extensions les unes avec les autres. Les unes après les autres, pardon. Mais avec le Season Pass, le niveau de puissance augmente. Et comme on le sait, quand le niveau de puissance augmente, ça veut dire que tout ce qu'on avait avant et plus vraiment d'actualité, c'est un petit peu un reset. Sauf que là, pour une fois, j'ai assez critiqué Bungie pour sa politique sur les extensions avec Destiny 2. Et ben, visiblement là, même si on n'a pas acheté le Season Pass, on a quand même accès au niveau de puissance plus élevé. Par contre, avec le Season Pass, on a plus d'opportunités de faire lever son niveau de puissance, de faire monter son niveau de puissance, parce qu'on a d'autres activités qui sont disponibles que pour ceux qui ont le Season Pass. Mais il n'empêche, on a quand même accès au niveau maximum, même sans les extensions. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est la bonne approche, je pense, pour ce genre de truc, pour garder tous les joueurs, y compris ceux qui n'ont pas envie de payer pour le Season Pass.
Ouais, c'est une bonne idée, je trouve. C'est pas mal. Et ça motive ensuite, après, une fois que t'as atteint le cap, à te dire, bon, bah, finalement, je vais peut-être prendre le Season Pass maintenant parce que j'accroche toujours.
Ouais, il y a ça, il y a le fait que c'est des autres activités qui ont l'air sympas. C'est pour un jeu service, je pense que c'est effectivement une des méthodes possibles. Beaucoup de gens aiment les Game Pass de Fortnite en ce moment. Ça, c'est une autre méthode possible, c'est rajouter des activités pour ceux qui ont le Season Pass, mais garder tout le reste du jeu tel quel et à autoriser les gens à monter de niveau aussi pour ceux qui n'ont pas le Season Pass. Donc, c'est vraiment ajouter des trucs à ceux qui veulent payer plus, mais sans en retirer à ceux qui ne veulent pas. Et ça, c'est sans doute, je pense, la bonne approche. Ils ont peut-être trouvé une formule qui pourrait fonctionner, là. On parlait de Fortnite, 200 millions de joueurs, c'est ce qu'ils ont annoncé. Ils étaient à peu près à 40 millions en début d'année. Aujourd'hui, ils sont à 200 millions. Alors, ce n'est pas 200 millions de joueurs en même temps ou actifs, c'est 200 millions de comptes créés. Donc, bon, ça, on ne sait pas combien continuent à y jouer aujourd'hui, mais comme on en parlait la dernière fois, Fortnite, il y a genre un chiffre hallucinant par épisode dont on doit parler. La dernière fois, c'était les joueurs concurrents, les joueurs qui jouaient en même temps. Cette fois-ci, c'est le nombre de joueurs existants, mais 200 millions, c'est invraisemblable. Enfin, c'est énorme, c'est monumental. Donc voilà, c'est 200 millions de comptes peut-être plus que de joueurs. Peut-être qu'il y a des gens qui créent plus de comptes.
Compte. Ouais, tu penses qu'il y a beaucoup de gens qui vont créer plusieurs comptes ?
Bah, je pense pas, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont créé, tu sais, pour le problème entre la Switch et la PlayStation, ouais, à l'époque. Donc tu étais obligé de créer un autre compte. Maintenant, tu peux les lier, donc je sais pas s'ils les ont pas comptés, mais enfin, bon, peut-être qu'il y en a, je sais pas, 160 millions au lieu de 200,
mais
tu vois,
ça reste c'est quand même vertigineux, oui, c'est ça. La différence sera pas. Ouais, waouh.
On a vu un brevet déposé par Sony en Corée, qui est un brevet en fait pour une cartouche pour une console. Et là, évidemment, quand on pense à cartouche, on se dit, mais quelle console va utiliser une cartouche ? Console portable ! Est-ce que Sony serait en train de possiblement penser à une nouvelle console portable pour l'avenir ? Moi, j'aimerais bien sûr. Je crois que ce que je disais depuis des années, c'est que oui, les jeux mobiles sont importants, mais je crois qu'il y a de la place pour une machine portable pour les core gamers, parce que les core gamers jouent à des jeux différents des joueurs mobiles. Et donc, il y a sur le marché de la place pour au moins une machine portable. Et je sais que les analystes du monde de la tech pensaient tous que « Ah, oh, ça y est, le mobile va tout remplacer, les consoles ne servent plus à rien et les consoles portables sont mortes, etc. Et ça, c'était avant l'arrivée de cette génération de consoles qui, on le sait, a eu beaucoup de succès. Et bien sûr, la Switch a montré que, au moins en partie, les consoles portables étaient intéressantes. Est-ce qu'il y a de la place pour une deuxième console portable ? Ça, je ne sais pas. Est-ce que la Switch est considérée comme une portable ou pas ? Moi, je pense que oui, mais à moitié. Est-ce que Sony pourrait sortir, reprendrait le risque de sortir une autre console portable ? S'il y avait une synergie plus forte avec la prochaine génération de consoles, d'une manière qu'ils auraient imaginé intelligemment, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, tout ça est basé que sur un brevet déposé. On sait qu'ils déposent des brevets tout le temps sur tous les sujets, donc ça ne veut peut-être rien dire. Mais on peut rêver un peu quand même. Console portable de Sony, tu serais client, toi ?
Écoute, mes deux dernières expériences m'ont un peu douché, donc j'attendrai de voir le succès que c'est avant de franchir le pas. Ce que j'aime en fait sur la Switch, c'est finalement que tu la docks, ça te fait une console de salon plutôt chouette, et ensuite tu l'embarques avec toi et tu reprends ta progression, tes jeux, etc. Je pense que si Sony ne va pas dans cette direction-là, ça va créer une sorte de, une sorte de mini fossé finalement entre ce que les joueurs ont, j'ai l'impression, demandent, d'où le succès de la Switch. bon, ça et le catalogue de jeux Nintendo qui est aussi assez incroyable, mais que maintenant c'est difficile d'avoir en fait deux consoles complètement séparées avec une librairie de jeux séparée et de pouvoir dire bah voilà, finalement bah tu veux jouer à ce jeu-là que tu avais sur ta PS4, bah c'est pas grave, c'est pas possible, tu vas devoir le racheter ou alors tu vas devoir avoir une version light ou moins bien, etc. Et je sais pas comment ils vont résoudre ce problème.
Et c'est vrai que c'est compliqué de le résoudre aussi avec l'idée de faire une console portable et dockable, parce que contrairement, enfin, ça veut dire qu'il faut une console dont la puissance est assez limitée. Tu peux pas faire de miracles. Et même si
Diablo sur la Switch rame un peu par moment, donc c'est pour dire que c'est pas forcément un monstre de puissance. Oui,
c'est ça.
Il y a beaucoup de monstres à l'écran et d'explosions, voilà. Donc ça pose un peu aussi la base. Surtout que PlayStation, ça a toujours été
La puissance,
en
quoi.
Général, la recherche de puissance plus qu'autre chose.
En streaming, en 5G, peut-être, mais peut-être pas.
Ouais, donc c'est bien, mais dès que tu sors de ta zone, tu streames plus, t'as plus
c'est
rien,
ça,
t'arrêtes de jouer.
Non, bien sûr. Ouais. Ouais, bon, on verra. De toute façon, c'est comme je le disais, c'est qu'un brevet, c'est peut-être pas, ça peut peut-être rien dire. Par contre, la PlayStation classique, entre parenthèses, les reviews sont pas excellentes. Hein. Visiblement, la console est pas hyper bien. Enfin, elle est bien finie, mais par contre, les jeux, c'est pas les meilleurs. Il y a des jeux en 50 Hz qui ont été, pour une raison étrange, les versions européennes plutôt que les versions américaines en 60 Hz, parce que on se souvient de cette époque où il y avait le combat entre le 60 et le 50 Hz. Il y a plein de petits problèmes. Ça a pas l'air d'être une super affaire, la PlayStation classique.
Ouais, bah, de toute façon, quand on en avait discuté déjà un peu par email, toi et moi, quelques copains, déjà, en se renvoyant les screenshots de Toshinden de l'époque, c'était quand même plus joli dans ma mémoire.
Ouais, c'est sûr.
Voilà. Je pense que ça reste un souvenir incroyable. Et la première fois qu'on a vu Toshinden tous les deux, c'était genre fantastique. Maintenant, les jeux de la PS1, j'ai pas trop envie d'y rejouer aujourd'hui.
Ouais, non, on est d'accord. Et en plus de ça, si la console est pas bien foutue, bon.
Ouais, voilà. En plus, ça n'aide pas.
Et dernière news, est-ce que j'avais parlé du truc? Non, peut-être pas. Bon, c'est pas grave. Il y a un article, un long article de Kotaku sur l'ambiance chez Blizzard et Diablo que je vous recommande d'aller lire. J'ai des réserves sur certaines choses qu'ils disent, mais il est très intéressant. Ça s'appelle The Past, Present and Future of Diablo. C'est intéressant. C'est comme je disais, Jason Schreier, il a toutes les infos du monde en ce moment, et c'est lui qui a écrit cet article où on apprend notamment que un truc qui va plaire aux fans de Blizzard, le Diablo 4 dans sa version actuelle telle qu'il est en développement est très sombre. L'un de ses piliers de développement, c'est Embrace the Darkness. Il a été rebooté en 2016 parce que la version qu'ils avaient avant ne semblait pas bien fonctionner, ils en étaient pas satisfaits, et donc depuis 2016 il est en développement avec cette idée vraiment de plonger dans l'univers sombre des Diablos de l'époque. Et puis un truc qui inquiétera peut-être plus les gens, qui est qu'il y a dans l'incubateur où ils développent ils ont plein de petites équipes qui font différents petits jeux, surtout sur mobile, il y a un jeu qui est une sorte de Pokémon Go mais dans l'univers de Warcraft, avec plus de jeux, en fait, plus de jeux. Je serais curieux de voir ce que ça donne, mais bon, évidemment, Pokémon Go, c'est pas forcément mon truc, quoi. Mais
ça ne m'étonne pas. Hey, regarde, j'ai attrapé un Arthas. Oh, il est légendaire, il est shiny, avec 12 000 de force de combat. Eh ben, écoute, c'est bien.
Mais tu sais, l'autre truc qui était intéressant dans l'article, c'est qu'il disait qu'il y avait que c'était vraiment les développeurs qui voulaient créer ces jeux-là et créer ces jeux sur mobile. C'est pas que les gens d'en haut sont arrivés en disant les jeux mobiles ça marche et maintenant il faut faire des jeux mobiles. Et bon, il n'y a pas que des choses positives. Il y a des gens qui parlent de l'influence d'Activision sur Blizzard, etc. Bon, c'est des trucs dont on parle depuis des années. Moi, quand j'y étais, depuis la fusion, c'est ça. Et moi, quand j'y étais, j'ai vraiment pas vu l'influence d'Activision. Et pourtant, il y avait des moments où Blizzard était pas en super bonne position et ils auraient pu avoir une influence. Et pourtant, ils l'ont pas fait. Pour moi, c'est parce qu'ils savent que Blizzard vend beaucoup parce qu'ils font des bons jeux, donc ils veulent pas venir foutre la merde. Mais bon, bref, quoi qu'il en soit, les jeux développés sur mobile, c'est les développeurs qui veulent les faire parce qu'ils aiment cette plateforme et ils pensent qu'il y a des trucs à faire sur cette plateforme. Donc peut-être qu'ils vont réussir à faire des trucs intéressants pour nous, les core gamers, parce que nous le valons bien. Je vous avoue que je serais surpris de voir des jeux mobiles auxquels j'ai envie de jouer, mais s'il y a quelqu'un qui peut le faire, je pense que c'est Blizzard. Mais bon, je serais quand même surpris, quoi.
Mais ce sera peut-être le premier jeu auquel on aura envie de jouer sur mobile. Il y en a, je sais pas combien de centaines de milliers qui sont sortis, qui sont pas tout à fait pour nous. Mais
bah, disons que
il y a un marché.
Tu sais, avant que Blizzard ne sorte Hearthstone, tu m'aurais dit « Ouais, les jeux de cartes à collectionner, c'est super bien, viens jouer. » Je t'aurais dit « Non, mais attends, j'ai d'autres choses à faire. »
Ouais, mais alors, mets ça en perspective. Avant Hearthstone, hein, si je t'avais dit « Viens, on va jouer à un jeu de cartes à collectionner » ou « T'as le choix de jouer à un jeu sur mobile », t'aurais choisi quoi ?
jeu sur mobile, peut-être. Moi, j'ai dit, c'était vraiment pas mon truc. Hein. Carte, je suis jamais rentré dans Magic, rien. Donc, mais pareil avec Overwatch. Si tu m'avais dit, ouais, Team Fortress, c'est super cool. Moi, j'avais joué quelques heures à Team Fortress, mais enfin, c'était pas mon truc. Et Hearthstone et Overwatch, j'y ai passé ma vie, quoi. J'ai englouti deux ans de. Tu vois, et pourtant, c'était des jeux, des genres où jamais j'aurais pensé que j'aurais été intéressé. Donc est-ce qu'ils vont réussir à répéter encore une fois le miracle avec les jeux mobiles ? Je ne pense pas, mais...
Il y a un gros problème, je pense, sur mobile, c'est aussi c'est l'interface et l'ergonomie et l'utilisation, finalement, parce que faire un jeu qui va te plaire à partir d'une base que tu n'aimes pas forcément, mais où tu as beaucoup de moyens d'interaction, pourquoi pas ? Tu vois, finalement... Overwatch sur un mobile par exemple, t'aurais détesté.
Non mais évidemment, l'idée c'est pas de faire Overwatch sur mobile.
Je sais pas comment ils vont sortir de ce problème là pour rendre le jeu jouable et qui parle au core gamer un peu.
Bah c'est la grande question. Disons que a priori, je me dis j'y crois pas trop, mais Blizzard l'a fait plusieurs fois où je me disais j'y crois pas trop et ils ont quand même réussi. Donc je me dirais de tous les développeurs qui existent, peut-être que c'est ceux qui ont le plus de chances d'y arriver. Maintenant, bon, je t'avoue que mes espoirs sont pas très hauts non plus. C'est juste que je suis prudent, quoi. Mais et comme je le disais, le fait que ça soit les développeurs eux-mêmes, même les sources de Jason Schreier qui disent ouais, il y a une influence d'Activision, il y a les dépenses sont coupées, on a plein de trucs qui posent problème. C'est ceux-là qui disent aussi oui, mais c'est les développeurs qui voulaient développer sur mobile. Tu vois, et même quand ils disent les dépenses sont coupées, ils disent on peut le truc sur lequel c'est pas coupé, c'est le fait de d'engager des gens. Tu vois, si on a des développeurs dont on a besoin, on les engage quand même. Et là, on dépense pas les dépenses sont pas coupées. Donc, je sais pas. Moi, ça me semble. C'est juste que ils ont pas. Tu vois, sur les 18 prochains mois, c'est ce que je disais dans mon podcast anglophone. Les 18 prochains mois. Il n'y a pas de World of Warcraft, il n'y a pas de Diablo. Hearthstone, Overwatch et Heroes, bon, ils commencent à être quand même un petit peu... être un petit peu... C'est toujours la même chose, quoi. Donc, sur les 18 prochains mois, il n'y a pas de grosse rentrée de prévu. Je me demande si ce n'est pas juste de dire, oula, bon, on veut avoir le temps de voir venir, on veut que nos développeurs aient le temps de prendre leur temps, justement, pour développer les jeux aussi bien que possible. Donc, essayons de voir où on va éviter de dépenser. On ne va pas aller dans les trade shows quand on n'a rien à montrer. On ne va pas faire les trucs qu'on faisait avant quand c'était nécessaire. Enfin, je serais curieux de voir où les dépenses sont réduites, tu vois. Parce que comme ils continuent à engager des développeurs dont ils ont besoin, je me dis, ils ont leurs priorités bien clairement établies. Mais bref, allez lire l'article en entier. Oui, pardon.
Non, mais je suis. Oui, c'est intéressant. Et je pense qu'effectivement, s'il y a une marque qui peut nous convertir au jeu sur mobile, ce sera peut-être Blizzard. Ben, j'espère.
Peut-être.
Parce que même Nintendo, en fait, ils ne sont pas arrivés. Hein.
C'est ce qui me fait. En fait, avant que Nintendo ne s'y mette, je me disais non, mais les problèmes des jeux mobiles, c'est pas des problèmes de jeux mobiles, c'est que les vrais développeurs s'y sont pas mis. Et le jour où les vrais développeurs s'y mettront, ils trouveront un moyen de nous faire apprécier les jeux mobiles. Et clairement, Nintendo n'a pas vraiment réussi, donc ça met un énorme point d'interrogation sur la possibilité même de le faire. Malgré toute la foi que j'ai en Blizzard, je ne suis pas convaincu qu'ils y arriveront, mais Il n'empêche.
Ils ont une chance.
Ils ont une chance, ouais, voilà. Et puis, disons que l'important, comme je le dis depuis cette histoire de problème de présentation de Diablo, ou de pas de présentation de Diablo, c'est que tant qu'ils continuent à faire des jeux sur PC pour nous, les core gamers, parce que nous le valons bien, bah moi, bon, après, ils peuvent faire ce qu'ils veulent ailleurs, quoi, je m'en fous.
Oui, bien sûr, bien sûr. De toute façon, ce qu'il faut, c'est arriver à équilibrer en fait entre les attentes des core gamers et de leur communauté qui est quand même fidèle et stable et loyale depuis plusieurs dizaines d'années, avec finalement trouver des opportunités de croissance aussi pour leur société.
Ouais. Le jour où ils sortiront 60 jeux mobiles et 0 jeux PC, là, je...
Les gachas, il faudrait qu'ils sortent des jeux à gacha, je pense.
C'est ça, ouais, ouais. Là, j'arrêterais de, on va dire, prendre leur défense un petit peu, c'est vrai que je le fais parfois, mais pour moi, j'ai vraiment l'impression de regarder la situation de manière aussi neutre que possible, peut-être que c'est pas le cas, mais de regarder la chose de manière aussi neutre que possible. Quand les choses dégénéreront vraiment, bah oui, là j'hésiterai pas non plus à dire ah, Blizzard, c'est plus ce que c'était avant, ils font que des jeux mobiles à gacha. Et d'ailleurs, les jeux mobiles à gacha, la FTC va investiguer les loot box. Alors ça fait plein d'anglicismes. La FTC, c'est quoi ? C'est la Federal Trade Commission. C'est l'organisme aux États-Unis gouvernemental qui s'occupe de gérer les problèmes de commerce. Et ils ont reçu une requête d'enquête sur les loot box, sur les principes des loot box, et donc ils vont enquêter dessus. C'est certainement la plus grosse annonce qui a lieu sur les problèmes de loot box depuis le scandale de l'année dernière avec Battlefield 2. Ça pourrait avoir évidemment des conséquences hyper importantes sur l'industrie. Je crois que, sans jouer au Nostradamus, il est très peu probable que ça se solde par une interdiction pure et simple des loot box. Pour tout un tas de raisons, on va pas replonger dans les débats sur les loot box, mais d'une part, il y a l'industrie est un petit peu, en grosse partie certainement grâce au scandale de l'année dernière, est un petit peu en train de s'éloigner des loot box et de leur préférer des modèles comme les Battle Pass de Fortnite et ce genre de choses, ou les Season Pass, etc. Et d'autre part, s'ils interdisaient un truc, ça serait peut-être interdire au moins de 18 ans, ou ce dont je parlais à l'époque, le fait d'afficher les pourcentages de chances de recevoir des trucs ou tout ça. Je pense pas qu'ils vont totalement interdire les loot box comme on l'a vu en Belgique ou dans d'autres pays. Mais on verra, l'enquête va certainement prendre du temps, puis on verra à quelles conclusions ils arrivent. Ça va être une enquête qu'ils vont faire en partenariat avec les représentants de l'industrie. Si les représentants ne collaborent pas, ils peuvent envoyer des demandes d'information qui sont en fait des demandes légales, et leurs décisions ont en fait pouvoir de loi en quelque sorte. Donc c'est une grosse histoire. Et c'est le truc que je pense tout le monde, même moi qui d'une certaine manière... C'est pas que je défendais les loot box, mais enfin j'essayais d'expliquer en me faisant un peu l'avocat du diable que toutes les loot box ne sont pas systématiquement mauvaises. Je pense que même moi je disais ça serait bien d'avoir un mot final là-dessus et une enquête officielle là-dessus. Surtout que les décisions qu'ont pris les organismes d'éditeurs, les associations d'éditeurs, pour moi étaient pas suffisantes. En ce sens qu'ils ont dit on va mettre un label. Ce jeu contient des achats en jeu, qui en fait ne veut rien dire. Il y a plein de types d'achats en jeu, et ceux qui posent problème, c'est les lootbox. Donc, il faudrait un label spécifique, au moins pour les lootbox, si on voulait que cette information ait une quelconque valeur. Et donc, ils ont clairement fait moins que le minimum nécessaire. Donc, c'est pas plus mal que le gouvernement se mette son nez là-dedans, on va dire. Voilà pour les sujets qu'on voulait couvrir. Bah, dis-moi, ça a fait un bel épisode, long et agréable.
Ouais.
Je pensais qu'on n'avait pas beaucoup de news toujours aujourd'hui, tu vois.
Non, mais t'inquiète pas, toi et moi, on n'est jamais à court de discussions, de débats et d'idées.
C'est ça, exactement. Bah, écoute, donc ça va être la fin de notre épisode. Merci beaucoup de t'être joint à moi pour cette heure et demie sympathique. Est-ce que tu voudrais dire aux auditeurs où ils peuvent te retrouver sur Internet et qu'est-ce qu'ils pourront trouver, par exemple, sur ton compte Twitter ?
Eh bien, écoute, mon compte Twitter, comme d'habitude, c'est @notdany. Donc voilà, c'est facile. Note, NOTDANY. Voilà, je ne poste pas souvent, mais je consulte en général et il m'arrive de temps en temps de poster une connerie.
C'est bien.
Les 36 du mois.
C'est exactement ce qu'on attend d'un bon Dany.
Voilà, exactement. Je troll un peu et puis voilà, et je m'en vais.
Bon, si vous avez des choses à dire à Dany, vous pouvez y aller. C'est Note Dany donc sur Twitter. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez aussi retrouver l'émission sur frenchspin.fr et vous pouvez laisser des commentaires. N'hésitez pas à venir le faire. C'est toujours sympa d'entendre ce que vous pensez de ce qu'on a dit, de ce dont on a discuté et de discuter avec vous également de tous ces sujets. Et voilà, c'est tout. Le prochain épisode sortira dans un petit peu plus d'une quinzaine de jours. Bon, je vais rien dire, mais ça, on arrive à la fin de l'année, donc forcément, on va avoir un épisode un petit peu particulier
spécial.
À un moment.
Ouh, quel suspense.
On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans une quinzaine de jours. Ciao à tous.
À bientôt.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.